Radio Prague, les informations.
Bonjour, Prague accueillera le congrès de deux jours du Parti Socialiste Européen. Les renforts annoncés pour l'Afghanistan. Andrei Lishka est le leader du Parti des Verts. Le congrès du Parti Socialiste Européen réunira lundi à Prague plus de 1200 délégués des partis sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes d'Europe, ainsi que les premiers ministres de Grande-Bretagne, d'Espagne, de Slovaquie, plusieurs présidents du Parlement et membres de la Commission européenne. Le congrès aura lieu deux jours du 7 au 8 décembre et les délégués y éliront la nouvelle direction du PSE. Parmi les invités, on note la présence des représentants de la gauche démocrate des États-Unis, d'Israël et d'autres États. C'est pour la première fois qu'une manifestation de cette envergure est organisée dans un des nouveaux États membres de l'Union européenne. Les pays participant à la mission ISAF en Afghanistan devraient renforcer leurs unités opérant dans ce pays de 37 000 hommes en 2010. Une déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, à l'issue des négociations des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Comme l'a rappelé le ministre tchèque Jan Kohout, le Parlement tchèque a approuvé un plan prévoyant la présence de 535 soldats tchèques pour l'année prochaine, soit 100 de plus par rapport à l'état actuel. L'actuel leader du Parti des Verts, Andrei Lishka, qui a remplacé Martin Bursik l'été dernier, a été reconduit dans ses fonctions. Il a été élu avec 170 des 253 voix de délégués réunis au Congrès des Verts qui s'est tenu à Brno. Son contre-candidat et représentant de l'aile opposée au sein du parti, le jeune Matěj Stropnický, n'a obtenu que 60 voix. Parmi les priorités du Parti des Verts, Andrei Lishka a cité la lutte contre la corruption, l'introduction des limites financières pour les campagnes électorales des partis politiques et la préparation du projet de loi sur l'élection présidentielle au suffrage direct. La croix du mérite de la République fédérale d'Allemagne a été remise à Berlin par le président fédéral aux époux Charlotte et Jan Rippel de Prague. L'agence DPA informe que les époux ont obtenu cet ordre pour leur aide apportée il y a 20 ans lors de l'exode d'anciens citoyens est-allemands qui s'étaient réfugiés dans l'enceinte de l'ambassade de la RFA à Prague. Le musée du service des eaux à Podolí dans le 4e arrondissement de Prague a organisé une journée porte ouverte permettant à ses visiteurs de se familiariser avec l'histoire du service des eaux dans la capitale. Une exposition leur a été proposée sur le thème de l'épuration des eaux usées. L'exposition documente l'histoire de ce secteur dont les fondements étaient posés il y a plus de 600 ans à l'époque du règne de Charles IV. Un mot de météo avant de terminer, un ciel nuageux brouillard sur l'ensemble du territoire avec des températures variant entre 0 et 4 degrés marque la météo ce dimanche, jour de fête des Mikuláš, Nicolas en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Jarka Gisublova.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parlera photo et cinéma. Photo, tout d'abord, avec une exposition consacrée à la jeune photographe tchèque Teresa Volčková, organisée par la Galerie Lefebvre à Paris. Jusqu'au 19 décembre, la galerie propose son cycle intitulé « A Perfect Day, Elise », qui met en scène des jeunes filles éthérées dans la nature, sorte d'archétype de la jeune fille parfaite, mais qui n'en dégage pas moins un sentiment d'étrangeté, voire d'inquiétude. Au micro d'un clairvelure, Romain Lefebvre, le galeriste, évoque le travail de Teresa Volčková qu'il a décidé de faire connaître au public parisien.
Alors, elle a commencé par donc cette série qui s'appelle Elise, un Perfect Day, une espèce de thématique sur Alice au pays des merveilles, où donc on voit des jeunes filles, assez lyriques, voler un peu en état d'apesanteur au-dessus des montagnes de Biscuit des Montagnes, exactement. Donc ça, c'est la première série qu'elle a fait en 2007. Où il y a un peu une espèce de magie slave, un mélange de pré-raphaélite, en même temps toute la photo, ici aussi de toute la photographie tchèque des années 30, comme Joseph Sudek. Donc ça, c'était un peu la série coup de cœur que j'avais eue. Je l'avais donc rencontré, j'avais vu ses premières photographies, donc en à peu près l'année dernière dans des magazines à Prague. Et elle a fait partie de pas mal de festivals à Prague et aussi donc à Lille, aux rencontres d'art l'année dernière. Et ensuite, elle a réalisé la série des jumeaux, ça s'appelle exactement la série Tout. Une série de petites filles habillées un petit peu fashion en même temps, qui est assez intéressant dans des paysages assez lyriques où on retrouve un peu magique, même avec des lumières très travaillées, un petit peu influencées par d'ailleurs elles s'en cachent pas par les cinéastes comme Tim Burton ou Stanley Kubrick. Voilà, avec une atmosphère assez particulière, assez surréaliste, mais que en décor naturel.
C'est toujours des photos, des portraits de personnes, et particulièrement de personnages féminins, si
oui,
je me trompe
oui,
pas.
Tout à fait. Elle est très orientée sur la gente féminine, plutôt d'un jeune âge, plutôt... Alors effectivement, là, pour les enfants, pour la série des jumeaux. Ensuite, pour Elise Perfect Day, elles sont quand même un petit peu plus vieilles. Elles ont à peu près entre 16 et 17 ans. Une espèce de jeunesse éternelle... Elle est toujours un petit peu en quête de pureté sur la femme idéale, mais très enfantine d'une certaine façon. C'est assez intéressant. Il y a un côté un petit peu pré-raphaélite, justement. Elles sont un petit peu habitées avec ces lumières très fortes, comme une espèce de divinité, comme si elles étaient en connexion avec le divin. Il y a quelque chose d'assez extatique, d'une certaine façon. Un petit côté un peu Heidi aussi. Je trouve assez étonnant. En tout cas, j'ai eu complètement le coup de foudre pour ça. Je trouve que ça se démarre complètement de ce qu'on voit à l'heure actuelle. Il y a un côté très naturel, justement, pas trop retravaillé, pas trop mode, entre guillemets.
En même temps, c'est quand même très précis. Est-ce que vous savez comment elle travaille techniquement ?
Bon, il y a un petit peu de travail en studio ensuite, mais c'est quand même globalement des décors naturels. Elle fait un gros travail sur la lumière. En fait, elle essaye d'avoir une approche de lumière de studio, mais en décor naturel. Alors, évidemment, elle veut un petit peu garder ses petits trucs à elle, pour ses petits secrets, donc elle veut pas trop dévoiler tout ça, mais c'est vraiment un petit peu l'idée, c'est-à-dire d'avoir cette approche d'image de studio, mais en décor naturel. D'ailleurs, on retrouve sur la série Tout un sentiment un petit peu de décor en studio, alors que on est en pleine forêt de Moravie, je crois, à peut-être 30 km de Brno, quelque chose comme ça.
Sur la dernière série, alors il y a un côté encore plus coloré,
sur la dernière série qui représente cet enfant en maillot de bain, c'est assez étonnant, avec des ballons qui donnent des carottes à des lamas, c'est assez surréaliste comme ambiance. Donc les couleurs sont évidemment très chaudes, très chaleureuses. On est en fin d'après-midi avec un soleil couchant, et c'est vrai que là, pareil, on a vraiment l'approche, on a l'impression d'avoir une vision de studio, mais en fait, on est en décor naturel.
Ouais, parce que c'est à la limite ou de la peinture extra réaliste ou même de l'image de synthèse.
Oui, c'est ça. On est vraiment un peu dans un mélange des deux, et en même temps, un décor naturel qui ressemble vraiment à son approche. Elle veut vraiment rester dans cet esprit naturel, pas se fourvoyer entre guillemets en trop d'artifices tel Photoshop ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est à la base, c'est pour un, je sais pas si ça va être publié, mais c'est pour un ouvrage pour enfants. Et il y a un côté pareil, un petit peu rêverie enfantine, encore une fois proche d'Alice au pays des merveilles, même si là les couleurs par rapport à la série Perfect Day sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus chaudes, mais on est encore sur une approche très très pure, très, oui, c'est ça, très enfantine, je dirais. Ça donne vraiment l'impression de l'âme slave. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu ambigu, un espèce de sfumato difficile à décrire, mais qui me parle complètement. Et qu'on retrouve sur, évidemment, beaucoup de photographes, la grande école tchèque.
C'était le galeriste Romain Lefebvre au micro d'Anne-Claire Veluire. Rappelons donc que l'exposition A Perfect Day, Elise de Teresa Volchkova, c'est jusqu'au 19 décembre à la Galerie Lefebvre à Paris. On passe maintenant, comme promis, au cinéma, avec aujourd'hui un coup de chapeau et un coup de cœur pour la maison d'édition et de distribution de films française Malavida, qui a pris l'initiative d'éditer, souvent pour la première fois, les grands chefs-d'œuvre de la nouvelle vague tchèque des années 60, connus ou moins connus. Lionel Itturald de la société Malavida.
On est à la fois une boîte de distribution de films en salle. salles et une boîte d'édition et de distribution de DVD. On est majoritairement orienté vers l'édition de DVD de films d'auteurs, que ce soit dans différents genres, documentaires, fiction, animation, etc. On s'est réorienté depuis 2 ans vers l'édition de films des années 60 et 70, majoritairement européens, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, disons, les nouvelles vagues des années 60.
Alors, dans ce cadre-là, vous vous êtes intéressé notamment au cinéma polonais, mais vous êtes également penché sur le cinéma tchèque, enfin tchécoslovaque, en tout cas encore à l'époque.
Oui.
Et en 2008, vous avez commencé par rééditer des films tchèques. Alors, pourquoi avoir choisi de rééditer ces films? Et puis, lesquels ont été déjà édités en 2008? On va déjà parler de 2008 pour commencer.
Donc, en 2008, on a édité 2 films de Menzel, qui était Mon cher petit village et Des trains étroitement surveillés. On a édité également le premier film de Miloš Forman, qui était L'As de pique. On a édité Le miroir aux alouettes, qui est un film de Yann Kadar et Elmar Klos. Et le dernier, c'était Les petites marguerites de Chytilova. Pourquoi est-ce qu'on a édité ces films-là? On savait très bien qu'il y a un manque du côté de l'édition DVD. Sur le cinéma tchèque des années 60 et 70, quasiment rien n'avait été édité en France, à part l'incinérateur de cadavres, de Hertz. C'est vrai que le cinéma tchèque de cette période était très réputé, mais qu'on n'avait pas l'occasion de le voir, tout simplement. Et on a eu la chance d'avoir accès à des droits sur quelques films tchèques pour commencer. Comme l'expérience s'est avérée très concluante, tant en termes de critique que de vente, et surtout de qualité des films, on s'est dit que ça valait le coup de continuer et de développer cet aspect-là de nos éditions, et d'éditer une sorte de panorama assez large de ce qui s'est fait dans le cinéma tchèque de ces années-là, en clair, du début des années 60 jusqu'en 70.
Cet automne, vous ressortez de nouveaux films. Alors, en effet, parmi ceux-ci, moi j'ai remarqué qu'il y en a certains qui sont peut-être moins connus. Vous parliez tout à l'heure évidemment de Miloš Forman, L'As de pique. Certes, ils n'étaient pas en DVD, mais par exemple, ils ont pu passer en cinéma de minuit. Enfin, je me rappelle aussi d'une époque où ils passaient sur Arte. Mais vous publiez notamment, enfin vous éditez des films comme par exemple Markéta Lazarová, qui est en effet pour les Tchèques un monument, j'allais dire, du cinéma tchécoslovaque, mais qui est par exemple beaucoup moins connu à l'étranger.
Oui, en France, on se targue souvent en fait de diffuser assez largement le cinéma mondial, mais c'est vrai que sur l'exemple précis du cinéma tchèque, comme d'autres cinémas européens de cette période, ce sont les anglo-saxons qui généralement font un travail plus développé que les Français. C'est vrai que Marquetta, on pouvait le trouver, je crois, en Angleterre et aux États-Unis. Les anglo-saxons ont écrit pas mal de choses sur le sujet et ont commencé à éditer pas mal de films de cette période-là. Et en France, on ne le trouvait pas. C'est vrai qu'on l'a vu et on a trouvé vraiment que c'était un chef-d'œuvre, comme par exemple Un jour un chat, que je trouve formidable. Mmh. On a été étonné à la fois par le niveau de qualité cinématographique, la diversité en fait de ces films, autant thématiques que visuels. Sur les 9 titres qu'on édite, qui sont tous de 9 réalisateurs différents, on peut dire que la qualité est vraiment exceptionnelle, je trouve. On envisage d'ailleurs de faire la même chose pour 2010. Ce qui est assez marrant, c'est que Marquetta a une sorte de grande fresque historique qui est pas du tout dans l'esprit du cinéma tchèque des années 60. C'est une sorte d'ovni. C'est en même temps un film qui est d'une qualité étonnante, quoi.
Et puis c'est intéressant, vous sortez également par exemple un film qui s'appelle Un cas pour un bourreau débutant de Pavel Juráček, qui a l'air d'être un film un peu surréaliste d'ailleurs, un peu sorti de nulle part.
Il est très surréaliste, c'est un film qui est effectivement très très surréaliste, c'est quasiment mon film préféré de la série des 9. Là. C'est à mon avis un des plus brillants que j'ai vu sur la série, sur le cinéma tchèque. C'est assez étonnant la trajectoire de ce réalisateur qui a pu réaliser quasiment un seul film de long métrage dans son pays et qui ensuite a été obligé de travailler uniquement sur des scénarios. Il avait un univers qui était très décalé, très surréaliste, et ça s'est pas du tout, il s'est pas du tout intégré à la normalisation après 68. C'est vraiment quelqu'un qui a été condamné à ne plus travailler. Et paradoxalement, pour moi, c'est vraiment un des plus brillants. Alors, on aura peut-être un peu de mal à diffuser le film en France, mais je trouve que le film méritait vraiment d'être édité. Je trouve que c'est une œuvre à découvrir ou à redécouvrir pour certains. Et ça fait partie de l'idée qu'on voulait faire avec cette collection, c'est-à-dire que effectivement éditer les choses les films les plus connus, comme Les Petites Marguerites, qui est une sorte de film culte mondial, ou Les Trains étroitement surveillés, mais à côté de ça, éditer aussi des films qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont de qualité vraiment équivalente, supérieure aux films plus connus, disons.
Alors, en effet, vous comblez un manque en France. Vous avez également agrémenté ces DVD de bonus, si je comprends bien. J'ai vu que, par exemple, il y avait une interview, il y avait des interviews qui avaient été réalisées notamment par Antonin Lim.
Oui, en fait, on est en contact avec Antonin Lim, qui réside la plupart du temps à Paris. Il a édité un recueil d'interviews des réalisateurs et aussi technicien du cinéma de ces années-là. C'est un document qui est assez étonnant parce qu'effectivement les interviews sont très fouillées. Elles sont vraiment réalisées entre 65 et 69. Beaucoup sont réalisées vraiment en plein printemps de Prague et un petit peu après. Et c'est des documents qui sont très très éclairants sur la manière dont les réalisateurs tchèques pensaient en fait leur cinéma à l'époque. Comment ils pensaient la situation aussi politique et l'avenir. C'est assez étonnant.
Et qu'est-ce qu'on y apprend justement alors ?
Ce qui est assez étonnant, c'est de voir en fait justement la diversité des avis sur ce qui se passait en 68. Vous en avez certains qui étaient extrêmement pessimistes, qui ont eu raison sur ce qui allait se passer après le printemps de Prague. D'autres étaient extrêmement optimistes. C'est assez étonnant de voir que personne ne savait vraiment ce qui allait se passer juste avant l'arrivée des chars et même juste après. Beaucoup de gens pensaient que les Tchèques allaient résister en quelque sorte malgré l'occupation. Il y a une sorte de sous-estimation de la puissance de la censure et du régime totalitaire qui allait s'installer.
En ce qui concerne par exemple le sous-titrage, est-ce que vous avez refait des sous-titres ou alors vous avez réutilisé par exemple des versions déjà existantes ?
On s'est appuyé disons sur les sous-titres de l'époque en sachant qu'il a fallu entièrement les refaire. Tout simplement parce que les standards de sous-titrage de l'époque ne sont plus adaptés au sous-titrage d'aujourd'hui. Ils sont en général un peu incomplets. Il y avait pas mal de coquilles et il y avait des erreurs de traduction, donc on a été obligé de les refaire pour la grande majorité. Et puis on a restauré aussi, en termes d'image, l'ensemble des films, qui sont dans une qualité plutôt bonne. Je trouve que les institutions, enfin la Cinémathèque tchèque a plutôt fait un bon travail de conservation par rapport à d'autres cinémas est-européens. Je trouve que les masters qu'on a eus étaient plutôt en bon état, mais nécessitaient quand même pas mal de restauration.
C'était donc Lionel Itural de la société Malavida. C'est avec lui que se clôt cette émission culturelle de la semaine. Je vous donne évidemment rendez-vous sur le web au www.radio.cz. Vous retrouverez toutes ces interviews. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy. Porque trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tana mía corazón está sufriendo tana mía por favor sufriendo malnutrición me está dando mala vida ya dice la trama mi corazón.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Direction aujourd'hui, une petite commune dans le nord de la Bohême au nom poétique de Krištofovo Údolí, la vallée de Christophe. Ce village de 250 habitants non loin de Liberec est depuis 2002 classé réserve protégée pour son architecture paysanne que des milliers de touristes viennent admirer chaque année. La vallée de Christophe est également connue pour son horloge astronomique qui est l'unique horloge paysanne en République tchèque. Et par sa crèche en plein air, dédiée à la commune par le peintre Josef Jira, surnommé le Chagall tchèque. Depuis le week-end dernier, la crèche est illuminée et ses figurines mises en mouvement, et les visiteurs peuvent l'admirer jusqu'à la fête des rois mages. La crèche de la vallée de Christophe est constituée de plusieurs dizaines de statuettes en bois, sculptées et colorées, dont quelques-unes font 3 mètres de haut. L'enfant Jésus, Joseph, Marie, les rois mages, les chameaux, les bergers, leurs moutons, représentent une scène longue de 16 mètres. Son auteur a passé 4 mois de travail à ciel ouvert avant que son œuvre soit achevée en 1999. L'illumination de la crèche, le 29 novembre dernier, était l'occasion de commémorer le 80e anniversaire de la naissance de l'artiste disparu il y a 4 ans. Plus de 300 personnes ont assisté à l'événement. Le maire de la vallée de Christophe, Pravoslav Svačinka, ne pouvait manquer à l'appel.
Cette année, c'est la 10e fois que nous inaugurons l'Avent de cette façon, une nouvelle tradition très agréable et un ciné. J'aime m'arrêter devant la crèche lorsque je rentre le soir et c'est plus beau encore quand il y a de la neige.
Outre la crèche, la vallée de Christophe attire les touristes par son horloge originale. Martin Chaloupka, auquel on a confié l'illumination de la crèche, est le père spirituel de cette horloge et à la fois son architecte, son bâtisseur et son investisseur. L'horloge a été aménagée dans la tour d'un ancien poste de transformation électrique voué à la démolition.
Deux figurines seulement de cette horloge sont statiques, Sainte Barbe et Saint Christophe. Les autres bougent, comme ce veilleur qui porte aux lèvres sa trompette pour sonner l'heure, ou ce petit chien qui court autour de lui.
22 figurines composent cette horloge, hormis Sainte-Barbe, patron des mineurs, car une colonie de mineurs a été fondée dans la vallée en 1528, et Saint-Christophe en tant que patron de la commune. Toutes les autres statuettes sont mobiles. Le départ est donné par le veilleur qui sonne l'heure, donnant le signal à une activité primordiale à la campagne, le nourrissage des animaux domestiques, comme les vaches, les poules et les oies. La scène continue par une image connue des autres horloges, l'apparition des 12 apôtres. En 2006, Martin Chaloupka a obtenu le feu vert des autorités à la réalisation d'une horloge paysanne ainsi qu'une dotation pour l'achat de la partie mécanique de l'horloge et de deux cloches. Son œuvre, minutieusement travaillée jusqu'au moindre détail, tel que le pompage d'eau dans la partie inférieure du relief, l'installation d'un cadran solaire sur la façade sud, a été pour la première fois présentée au public le 1er décembre 2007. Tous les éléments ont été fabriqué par le serrurier du village et l'horloge n'aurait pas pu être achevée sans l'aide de l'atelier de forge.
C'est l'œuvre du forgeron d'art Jan Nikendai qui est aussi, entre autres, l'auteur du chevalier qui orne la mairie de la ville de Liberec.
L'horloge sonne tous les quarts d'heure, le signal étant transmis par satellite. La commune de Krištofovo Údolí se compose de 3 parties longeant la vallée de la rivière Neisse. D'après la légende, la commune s'appelle d'après le charbonnier Christophorus, le premier homme venu s'installer dans cette vallée, riche en minerais de plomb et de fer. Cette exploitation a cessé après 1750 pour être remplacée par la calcination de la chaux et du bois. 1859 a été un tournant dans la vie de cette commune à l'écart du monde, avec la construction d'un viaduc sur la ligne reliant Liberec et la ville de Saxe-Zittau. Avec ses 30 mètres de hauteur, 200 mètres de longueur et ses 14 arcs, le viaduc représente un monument technique remarquable. La vallée de Christophe, nous l'avons dit au début, est classée site protégé pour son degré de conservation de l'architecture populaire typique de la région des Sudètes. En premier lieu, citons l'église baroque de Saint-Christophe de 1683. C'est un tout à fait unique construction à colombage recouverte d'ardoises qui se soit conservée dans la région. Les murs et le plafond de l'église sont ornés de 15 fresques représentant la vie du Christ. Le cimetière local est tout à fait unique en son genre, avec ses peintures représentant le thème de la danse macabre. Quelques vestiges du cycle culminant par un memento mori, locution latine signifiant « souviens-toi que tu mourras », sont encore visibles sur les murs. Cette forme d'expression artistique était le résultat d'une réflexion sur la vie et la mort à une période où celle-ci était plus présente et plus traumatisante, par exemple durant les guerres, les famines et la peste, des épreuves qui n'ont pas épargné la vallée. À deux pas du cimetière, un atelier de céramique de Jaroslav Lada se trouve dans la paroisse baroque. Et une autre surprise nous attend encore dans l'auberge chez Christophe. Au premier étage, une exposition de plus d'une vingtaine de crèches, matériaux, dimensions et époques confondues. La plus ancienne d'entre elles porte la date de 1848. Il y a des raretés comme la crèche Müller de style oriental ou encore une partie de la crèche mécanique de Franz Paul du Tyrol. Cette exposition est permanente et se visite pendant les week-ends. C'est la fin du programme en français sur Radio Prague. Merci de votre attention. Vous retrouverez tous vos sujets sur notre site internet www.radio.cz. Passez une bonne semaine. Au revoir. Nasledanou.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10:30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kHz. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kHz. Y a las 21:30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kHz. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1:30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6.200 y 7.300.